Bonjour. Parmi les premiers outils de l'humanité, il y a, vous le savez, les silex que les hommes de l'âge de pierre taillaient en forme de pointe de flèche, de lance ou en forme de couteau. Mais les silex de forme carrée que l'on a retrouvés dans des fouilles au Moyen-Orient n'ont rien à voir avec ces outils. Alors, à quoi servaient-ils? Pour le savoir, les archéologues ont fait appel aux techniques les plus sophistiquées. Le mystère des silex carrés, une histoire étonnante que nous raconte Marie-Dominique Dutertre.
La vallée de Hadour en Syrie. En 1986, lors de fouilles, des archéologues y découvrent des centaines de silex taillés vieux de 8000 ans. Ces silex ont une forme tout à fait inhabituelle, ils sont taillés en rectangle. Dans les années qui suivent, des milliers de ces silex sont découverts dans la région, un vrai mystère pour les archéologues. De toute évidence, ce ne sont ni des pointes de flèches, ni des parties d'armes ou de couteaux. Alors, à quoi servaient-ils ? L'archéologue Patricia Anderson est la première à entrevoir la solution. Elle découvre que ces silex sont peut-être les lames d'un drôle d'outil, le tribulum.
On a commencé à parler avec les gens qui lisaient les premières écritures, c'est-à-dire les tablettes en argile avec les empreintes de roseaux, et ils sont arrivés à traduire ces choses pour comprendre qu'ils parlaient d'un instrument agricole, hacher le paille et battre les grains de blé. C'était construit comme un radeau. Et il y avait des poutres liées avec du cuir dans ces descriptions. Et on insérait 50 à 80 silex.
En Espagne, un lointain descendant de ce tribulum était encore utilisé il y a quelques années. C'est un peu l'ancêtre de la partie batteuse de la moissonneuse batteuse. L'idée de Patricia Anderson semble donc plausible, mais elle reste à prouver. Ces premiers agriculteurs de l'âge de pierre connaissaient-ils déjà le tribulum ? Pour le savoir, une seule solution, en construire un pour comparer ensuite les traces d'usure sur les silex. En parallèle, des chercheurs reconstituent le mode de fabrication de ces pierres. Une première étape consiste à préparer par percussion avec un galet de gros silex dont on tire des lames de 20 à 30 cm. Ensuite, les lames sont fragmentées en plusieurs morceaux. N'ayant trouvé aucune trace de fabrication sur les sites, les chercheurs pensent que les paysans ne confectionnaient pas eux-mêmes les silex, mais les achetaient à des spécialistes de la taille. À l'aide de rondins de bois liés par des lanières de cuir, les archéologues reconstituent ensuite un tribulum. Sur les silex, il reste des traces de goudron, sûrement la colle utilisée à l'époque.
Il y a 5000 ans, on connaissait déjà bien le goudron, tout simplement parce qu'il est partout. Et les fleurs de la terre, on n'a qu'à la ramasser en état même gluant et l'utiliser. Et aussi beaucoup de roches contiennent du goudron et qu'on extrait en écrasant la roche et en le chauffant.
On colle donc les silex avec du goudron et le tribulum est prêt. On peut désormais tenter l'expérience et l'utiliser comme les agriculteurs de l'âge de pierre. Tiré par un cheval, le radeau glisse sur les épis que l'on a moissonnés. L'objectif est double. D'abord, séparer le grain de la paille. Ensuite, hacher cette paille qui entrera dans la fabrication des briques de boue séchée avec lesquelles on construisait les maisons de l'époque. L'outil va-t-il se révéler efficace?
Alors, le tribulum tourne depuis environ presque une heure, et on voit que la paille s'est réduite à peu près un tiers ou un quart de longueur initiale de la tige. Et si on creuse en dessous pour voir ce qu'il est petit, c'est un petit fragment de paille haché. Et on voit aussi alors des grains.
Autre constatation, les archéologues remarquent qu'avec cet engin, on réalise en 2 heures à peine 8 heures de travail d'un paysan avec son fléau, comme cela se faisait en France au siècle dernier.
L'expérience d'abord nous a prouvé que des pierres marchent pour hacher la paille et que ça fonctionne comme tribulum. Et on va pouvoir voir aussi que l'usure produite sur les lames en silex est le même que celui retrouvé sur les anciennes lames.
C'est ce qui permettra de valider définitivement l'hypothèse du tribulum. Après l'avoir utilisé en conditions réelles, Patricia Anderson confie les silex à un spécialiste de l'usure des matériaux.
On va prendre un au début.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on pense?
Donc un 3,
ouais.
On peut l'enlever.
Ok. Donc celui-là, au niveau des zones qui ont été sollicitées, donc on voit là un. Ensuite, on va en prendre un au milieu, par exemple. On va prendre celui-ci.
École centrale de Lyon, laboratoire de technologie des surfaces. Ici, les ingénieurs étudient l'usure et les frottements. Cette science permet entre autres de connaître l'histoire des objets trouvés lors des fouilles. En comparant au microscope les silex fraîchement utilisés à ceux retrouvés dans les fouilles, le chercheur va définitivement confirmer l'hypothèse de Patricia Anderson.
On va faire des mesures toutes petites, de quelques centaines de microns carrés, et on va s'apercevoir après que, effectivement, cette surface n'est pas lisse, mais elle est composée de creux et de bosses. Donc avec cette manip de laboratoire, on a pu montrer effectivement qu'il s'agissait bien, pour ce type de morphologie, de silex qui ont été utilisés dans le cadre d'un tribulum, c'est-à-dire d'un contact silex-paille.
Et voilà comment, grâce au microscope, les chercheurs ont découvert comment travaillaient les premiers paysans de l'histoire. Pas de doute, à l'époque, les inventeurs du tribulum étaient déjà d'excellents techniciens.
Dans 5 ans, s'il n'y a pas de retard, les premiers Airbus A380 emporteront leurs premiers passagers. Cet avion géant, je le rappelle, peut emporter par exemple 4 fois plus de passagers que l'Airbus A320, l'avion classiquement qui fait la navette entre les grandes villes de France. Ce sera une véritable révolution, et notamment pour les aéroports, qui à l'heure actuelle sont tout simplement trop petits pour accueillir cet avion géant, ce qui va changer. Enquête Sophie de Malaglaive.
L'A380, la plus grosse machine volante de tous les temps. Les dimensions du futur avion de la famille Airbus seront impressionnantes, largement supérieures à celles du plus gros appareil actuellement en service, le Boeing 747. Présenté au Salon du Bourget en juin dernier, la maquette du futur gros porteur n'a laissé personne indifférent.
Surprenant, vaste, grand.
C'est gros, c'est impressionnant, c'est énorme.
Très spacieux et on comprend pourquoi il gagne sur la concurrence.
La 380 impressionne surtout par son envergure, 80 mètres de large, soit 15 de plus que celle du Boeing. Il le dépassera en hauteur de 5 mètres avec 24 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 9 étages. À l'intérieur, sa surface devrait être supérieure d'un tiers à celle du Boeing. Les voyageurs de demain vont-ils y gagner en confort et en place pour les jambes? C'est ce que l'on pourrait espérer en regardant cette simulation que propose aujourd'hui Airbus à ses clients. Un bar, de larges espaces de détente, tout semble prévu pour favoriser le confort maximum des passagers. Mais ne rêvez pas, cette version idéalisée restera très exceptionnelle. En réalité, les compagnies aériennes opteront certainement pour un aménagement beaucoup plus rentable de l'espace intérieur. C'est du moins l'avis de ce journaliste spécialiste en aéronautique.
C'est un avion qui, sans modification technique d'aucune sorte, pourra transporter jusqu'à 700 et même pas loin de 800 passagers, même si c'est un petit peu théorique. Il s'agirait là de configurations type charter. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour Airbus, il y a un concept de famille qui est déjà très étudié, très élaboré. Et en fait, le 380 annonce l'avion à 1000 places, et cela pour un avenir qui n'est plus très lointain.
Les passagers seront répartis sur 2 étages. Au pont supérieur, jusqu'à 200 places seront disponibles, et au pont inférieur, entre 300 et 600. Pour débarquer et embarquer le plus rapidement possible, les compagnies pourront choisir de mettre en place jusqu'à 3 passerelles d'accès à l'aérogare. Un avion de 6 ou 800 places, c'est 30 à 40% de personnes en plus que dans un 747. Et donc, un accroissement considérable des flux de passagers. Les aéroports ont-ils les infrastructures suffisantes pour accueillir de telles quantités de personnes en même temps? Regardez ce qui se passe déjà dans les aérogares parisiennes quand 3 gros porteurs débarquent leurs passagers au même moment. 1500 personnes affluent alors devant seulement 5 policiers. Ensuite, la galère continue. Il faut récupérer les bagages avant de repasser des formalités de douane. Mais les salles sont bondées et les tapis de livraison surchargés. Difficile dans ces conditions de ne pas craquer.
Il y a un défilement qui est conçu pour un certain nombre de personnes. Et puis on est tous pareils, un peu en meute, les comportements sont pas géniaux, quoi. Donc on s'agglutine les uns et les autres avec nos chariots, puis avec les gens là derrière, ça pousse, ça rogne.
En fin de compte, vous avez 7h30, 8h de trajet et vous en avez autant entre les formalités de départ et les formalités d'arrivée. Un problème.
Avec 30% de personnes en plus, la situation serait intenable. Pour accueillir un avion comme la 380, les aéroports devront donc prévoir un plus grand nombre de filtres de police et des tapis de livraison mieux conçus.
Bien évidemment, on ne peut pas traiter les bagages d'un seul avion sur 2 tapis, puisque le passager ne saurait pas s'y retrouver. Donc en fait, il faudra, pour être précis, des tapis bagages plus longs et plus d'espace dans les salles pour que tous les passagers de ces vols puissent trouver place autour d'un tapis bagage unique.
Autre problème que les aéroports devront résoudre, celui du respect du temps d'escale. C'est le temps nécessaire pour préparer un avion entre deux voyages. Il doit être aussi court que possible pour que l'exploitation de l'avion soit rentable.
Le temps d'escale minimum d'un avion non courrier, pour un 747, est de l'ordre de 80 minutes. Les objectifs que se sont fixés Airbus et les compagnies aériennes, c'est que cet objectif ne soit que légèrement modifié. Et on compte que ce sera moins de 90 minutes. Donc, pour que ce soit possible, il faut bien sûr que les flux soient accélérés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
Des flux accélérés, cela implique plus de personnel et de moyens. Mais ce n'est pas tout. Pour faire face à l'arrivée de l'avion géant, toutes les infrastructures aéroportuaires devront être agrandies. C'est le cas de certaines voies de circulation au sol trop étroites actuellement, et surtout des postes de stationnement. Là, les avions sont alignés les uns à côté des autres, et la distance qui les sépare en bout d'ailes est incompressible pour des raisons de sécurité. C'est pourquoi il serait impossible aujourd'hui de placer côte à côte deux A380.
Il va falloir concevoir de nouveaux postes de stationnement plus larges. Comme on ne peut pas modifier profondément les aérogares existantes, on va en fait mettre ces postes de stationnement sur les nouvelles aérogares dont la construction est prévue.
C'est le cas à Roissy qui s'est lancé dans de lourds investissements pour accueillir l'appareil à partir de 2006. Mais combien d'aéroports dans le monde recevront le géant des airs dans moins de 5 ans? Très peu.
C'est un avion qu'on verra pendant de nombreuses années avant qu'il aille ailleurs. Avant tout sur les 10 ou 12 très grandes plateformes internationales de par le monde.
Concrètement, au départ de Paris, Montréal, Miami ou Tokyo seront desservis. Les autres lignes concernent essentiellement l'Asie et l'Amérique du Nord. Mais l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il permet de soulager un ciel déjà bien encombré. À lui seul, la 380 peut en effet remplacer entre 5 et 8 avions de taille plus réduite. Au final, c'est donc moins de bruit et de pollution pour les riverains des aéroports.
Moins d'avions, c'est a priori moins de nuisances. D'ailleurs, important de dire au passage, le 380 sera franchement moins bruyant que les gros porteurs qui circulent actuellement, mais surtout moins d'avions, ou une augmentation plus modérée du nombre d'avions va éviter des tensions en matière d'environnement plus vives et plus difficiles que ce qui se passe actuellement.
Actuellement, seuls les grands aéroports asiatiques comme Tokyo, Singapour, Hong Kong, Bangkok ou Séoul sont pratiquement prêts. Pour les autres, comme Roissy, le seul aéroport français qui accueillera la 380, il faudra investir à chaque fois de 400 à 700 millions de francs pour pouvoir accueillir le nouveau géant des airs.
Et vous le savez, en ce moment, le transport aérien traverse une crise grave. Néanmoins, pour l'instant, le programme A380 n'est pas remis en cause. Différentes compagnies aériennes dans le monde en ont commandé à ce jour une cinquantaine d'exemplaires. L'industrie pharmaceutique a réussi à produire des pilules qui ont parfois des effets spectaculaires. Parmi ces véritables pilules miracles, celles qui transforment instantanément des enfants dits hyperactifs, ces délires instables et même violents, en enfants calmes et concentrés. Une transformation spectaculaire, regardez.
La Ritaline est-elle vraiment efficace? Aurélie a été reconnue hyperactive. Elle est sous traitement depuis 2 ans. Mais ce matin, elle n'a pas encore pris sa Ritaline et ça se voit. Elle s'énerve, passe d'une activité à une autre sans être intimidée par la caméra. Dès que son père a le dos tourné, elle monte sur la table et tout cela en quelques secondes. Elle ne se contrôle plus, il est temps de lui donner sa première gélule de la journée. Et l'effet est spectaculaire. Moins d'une heure après avoir pris le psychostimulant, Aurélie est alors totalement méconnaissable.
Là, vous voyez bien, en fin de compte, elle est toute calme, elle attend bien gentiment. On a l'impression qu'en fin de compte, à la voir, qu'elle n'est pas hyperactive, mais elle vient, ça fait presque une heure qu'elle a pris le cachet, donc bon, bah voilà, ça fait, on voit bien la différence.
En France, un quart des enfants hyperactifs prennent ce médicament, soit environ 60 000. Comme Aurélie, chaque mois, ils se rendent à l'hôpital, mais seuls les psychiatres qui exercent en milieu hospitalier sont autorisés à prescrire ce traitement. En attendant sa consultation, Aurélie prend le deuxième cachet de la journée. Il est 14 h et la Ritaline ne fait effet que pendant 4 heures. Malgré cette contrainte, Max Lanos est certain que cette pilule a sauvé l'avenir de son enfant.
Aujourd'hui, si Aurélie sait écrire, si elle sait parler, si elle sait se concentrer, c'est grâce à la Ritaline. Elle n'aurait pas la Ritaline. Aujourd'hui, d'abord, elle ne serait pas dans une école normale. Elle serait certainement dans un milieu, je ne sais pas où, mais qui ne correspondrait pas à sa maladie.